Bonjour David, bonjour à tous. Dans le cadre du Téléthon, Jean-Yves Augrel, le chercheur à l'Institut de Myologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, donnait une conférence vendredi dernier à Saint-Marceau. Bocapol accueillait ce week-end la seconde édition de Bokken Geek, un festival dédié à la pop culture qui a de très très nombreux adeptes. Inauguration samedi dernier des nouvelles pistes cyclables dans le Touarçay, un nouvel aménagement urbain visant à développer les mobilités douces. S'informer sur l'intelligence artificielle, c'est l'objectif de deux temps forts proposés par le CSC du Pays Moléonais, dont le premier aura lieu demain mardi. Et puis, retour ensuite sur le week-end sportif avec les résultats de nos principales équipes. Quant à la météo, le ciel restera majoritairement nuageux cet après-midi. 9 militants anti-bassines ont tenté ce matin de s'introduire dans l'hémicycle du conseil départemental à Niort afin d'assister à la séance et interpeller la présidente sur le soutien de la collectivité au sujet des réserves de substitution. Le personnel de sécurité leur a empêché d'atteindre cet objectif, mais les manifestants n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils promettent de revenir. Le lancement officiel de la nouvelle saison du Téléthon en Nord-de-Sèvre en fin de semaine dernière à Saint-Marceau. Saint-Marceau, une des communes du Grand Laforêt, puisque ce territoire a été désigné comme territoire ambassadeur Nord-de-Sèvres, l'occasion de mobiliser les acteurs locaux, bénévoles et partenaires autour des enjeux de cette grande opération en faveur de la lutte contre les maladies génétiques. Le moment fort de la soirée de vendredi a été l'intervention du bressuré d'origine Jean-Yves Augrel, chercheur à l'Institut de Myologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, orienté vers l'évaluation des propriétés du système neuromusculaire. Ce centre de recherche a ainsi développé ses propres outils de mesure. Les précisions de Jean-Yves Augrel.
Il y a une trentaine d'années, quand l'Institut de Myologie a vu le jour, moi j'ai été très naïf et je suis arrivé en pensant que la plupart des outils étaient déjà sur le marché, existaient pour mesurer la force, etc. Et puis on s'est très vite rendu compte que c'était absolument pas le cas. Quand j'ai eu mes premiers patients en fauteuil roulant, trachéotomisés, très 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 faibles, on s'est aperçu que les outils qui existaient étaient complètement insuffisants. Et donc on a commencé à développer nos outils. On a créé comme ça une vingtaine d'innovations et il y en a même certaines aujourd'hui qui sont utilisées dans le monde entier parce que ce sont les seuls outils qui permettent de mesurer les patients les plus faibles. La première thérapie génique dans une maladie neuromusculaire, c'est une thérapie qui a été mise en place en 1998-1999 dans la myopathie de Duchenne et de Becker. Donc ce sont des dystrophinopathies, c'est la dystrophine qui est absente dans la membrane. Il y avait une injection très locale dans un muscle qui s'appelle le radialis, qui est un muscle qui est dans l'avant-bras et qui sert à étendre le poignet. Et puis on a regardé comment on pouvait mesurer cette force et on s'est aperçu qu'il y avait absolument rien. Et donc on a commencé à développer notre premier outil. Et c'est un outil qui est toujours utilisé aujourd'hui. Toute ma carrière, j'ai attendu les thérapies se développer, etc. Et mon rêve, c'est de voir un patient en fauteuil roulant remarcher. J'espère pouvoir le voir parce que les essais thérapeutiques sont en tel essor que voilà, c'est voilà. Et j'aimerais bien finir ma carrière sur une victoire comme celle-là.
Le bressuré d'origine, Jean-Yves Augrel, chercheur à l'Institut de Myologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, institut qui dispose de 25 millions par an pour ses travaux, dont la moitié provient de l'AFM Téléthon. Et comme d'habitude, la prochaine édition se déroulera le premier week-end de décembre. La seconde édition du Bokken Geek à Bocapol a tenu toutes ses promesses. Si les cosplays ont été particulièrement appréciés, ce loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, ses cheveux ou encore son maquillage, le public a pu suivre une variété d'animations déambulées à travers les 150 stands d'exposants et de créateurs, à l'image de Charlène de Terra Dream. Passionné par les fleurs, ce sont deux séjours au Japon qui lui ont inspiré ses créations autour de la pop culture.
Le Japon, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur des nouvelles créations, parce qu'avant je faisais vraiment des terrariums avec des plantes sans toutes les décorations autour, donc vraiment très classique. Et voilà, c'est ce qui a éveillé tout ça. Donc j'ai commencé surtout sur les thèmes Disney et Harry Potter, que j'aimais beaucoup. Et là je me développe maintenant où je crée mes propres contenants, parce que j'étais assez limitée et je voulais surtout pas travailler du plastique comme on trouve dans le commerce. Et donc j'ai designé mes propres contenants qui sont imprimés en 3D. Donc c'est vraiment du fait main et du sur mesure. Voilà, donc après on va dans tous les univers, jeux vidéo, beaucoup les Pokémon, c'est très en vogue toujours en fait depuis des années.
Majoritairement des plantes grasses que vous travaillez.
Ça. Je me suis rendu compte que mon public, le public geek, avait pas trop la main verte, hein, il faut bien le dire. Donc je me suis adaptée parce que donc cette variété, ça s'appelle des succulentes. Elles ont toutes des formes différentes, donc on peut travailler tous les univers qui correspondent. J'essaye toujours de mettre la plante qui a le plus de rapport avec le personnage. Et effectivement, c'est des plantes qui sont très faciles d'entretien. Ça va avoir une jolie déco qui est vivante, qui respire chez soi et qui ne demande pas trop d'entretien et qui n'est pas trop contraignant, effectivement.
Un reportage signé Charlie Cousineau. Le bilan chiffré en termes de visiteurs n'est pas encore connu, mais il se chiffrera comme l'an passé à plusieurs milliers de visiteurs. De quoi laisser présager d'une troisième édition toujours à Bocapol et toujours organisée par l'association niortaise Hors Cadre. Le record de 8500 visiteurs de l'an dernier n'a pas été atteint ce week-end lors des journées du patrimoine en Touarçais. Les 40 sites animés se sont cependant laissés classés dans la fourchette haute, frisant les 7000 passages selon les statistiques rassemblées hier soir par Christelle Morin, directrice du patrimoine de la ville de Thouars. Des visiteurs venant parfois d'un rayon d'une centaine de kilomètres. La collégiale d'Oiron a séduit le public grâce au concert du samedi soir. En parallèle, le château de Thouars a dépassé les 1000 visiteurs, doublant donc sa fréquentation des éditions précédentes. Quant aux échafaudages accrochés à la façade de la chapelle du même château, ils ont été pris d'assaut, provoquant l'émotion d'une rencontre inédite, en hauteur et nez à nez, avec les sculptures des siècles passés. De la convivialité également et beaucoup de bonne humeur hier matin, ici même. De nombreux auditeurs sont venus en effet nous rendre visite, puisqu'à l'occasion de ces journées du patrimoine, nous ouvrions nos portes. Des auditeurs qui ont pu découvrir l'envers du décor et mettre un visage sur une voie familière. Quelques 800 personnes s'étaient retrouvées samedi pour la traditionnelle randonnée semi-nocturne de la Petite Boissière, randonnée à travers les chemins creux de la commune. Beau succès pour la 5e édition de la Citadine hier matin à Bressuire, organisée par la municipalité et le SBAC. Ce trail urbain permet chaque année de découvrir la ville sous un œil différent. Même si le nombre de participants était en très légère baisse, ils étaient quand même 900, 350 coureurs et 550 marcheurs à avoir apprécié le parcours. Dans sa combinaison rouge et vert, siglé de son club, Joseph, 9 ans, est venu avec ses parents au village vélo installé au centre socioculturel de Thouars. Samedi, on inaugurait en effet les pistes cyclables de Thouars. Mais Joseph, lui, pédale sur un vélo d'entraînement avec une idée précise qu'il résume au micro-colline de Dominique Hérault.
Je fais souvent du vélo, je suis dans un club depuis 3 ans. J'ai envie d'être coureur professionnel et faire le Tour de France.
Aux côtés du futur champion, Joël Richefort, éducateur au vélo club Touarçais, mesure tout l'intérêt des 7 kilomètres des nouvelles voies réservées aux deux roues entre Thouars, Louzy et Sainte-Verge.
Maintenant, les gens viennent au vélo grâce aux pistes cyclables et grâce au vélo électrique. Les trottinettes, ça représente encore un danger. Ils ont la réglementation du code de la route. Après, c'est les pratiquants qui sont pas toujours raisonnables.
Venu à vélo, bordé de 4 conseillers municipaux, le maire accueillait samedi matin tout sourire. Une sous-préfète, un sénateur, un député et un conseiller régional pour savourer ce moment où tout semble rouler comme sur des roulettes. Bernard Pénaud.
Ça va bien au-delà des vélos, ce qu'on a fait. Puis finalement, on en a fait un beau projet de requalification, de verdissement, d'enfouissement des réseaux, de sécurité, d'esthétique, de plantation d'arbres, de revoir les stationnements, d'apaisement pour la circulation même des voitures et tout. Et donc, c'est vraiment très, très satisfaisant.
Un léger sentiment de frustration pourrait freiner l'optimisme ambiant à Thouars. Il existe un service public qui loue des vélos électriques pour aider les personnes à faible revenu à aller au travail, mais rien n'est prévu, ni dans le privé, ni dans le secteur public pour le vélotourisme électrique, ce qui peut pénaliser les touristes ou les Touarçais qui souhaiteraient faire des balades sans transpirer à grosses gouttes. Bernard Pénaud.
Effectivement, la question du matériel, plutôt que tout le monde achète son vélo, d'avoir des possibilités pour les touristes ou pour les habitants de louer des vélos, c'est une question qui fait partie, dans mon esprit, des possibilités qu'on doit inventorier.
Pour cette réalisation qui relève le cachet de plusieurs grands axes de la ville, la municipalité touarçaise a investi 6 millions d'euros, moins 2 millions de subventions. D'autres pistes sont prêtes à sortir des cartons lorsque le chantier de rénovation des places Lavaux, Flandre, Dunkerque sera terminé, juste à la mise en selle des élections municipales. Reportage de Dominique Hérault. Peu importe son âge ou son niveau en informatique, le centre socioculturel du Pays Mauléonais, dans le cadre de ses ateliers numériques, invite tout un chacun à venir s'informer sur l'intelligence artificielle. Parlons-en simplement, ce sera le sujet de 2 temps forts programmés demain, 23 septembre, ainsi que le 2 octobre. Constance Michenot, animatrice numérique au CSC, nous en dit un peu plus au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Au sein de ces ateliers-là, on a des questions qui reviennent, voilà, et notamment en ce moment le sujet de l'intelligence artificielle. Ça nous trottait dans la tête de trouver quelqu'un qui puisse répondre aux questions des habitants, de nos collègues, peu importe la tranche d'âge, parce qu'on a des personnes, des retraités, voilà, qui semblent certaines fois inquiets ou qui utilisent l'intelligence artificielle, mais qui savent pas forcément comment ça marche. Donc, c'est l'occasion de pouvoir aborder l'intelligence artificielle dans sa globalité, en fait. Alors, on a prévu deux temps d'information collectifs. Donc, le premier qui s'organise le mardi 23 septembre en soirée, 18h30 à 20h30, et un temps en matinée le jeudi 2 octobre. Et donc là, c'est plutôt des temps spécifiques, mais voilà, pour aborder le sujet, pour former aussi nos bénévoles sur le sujet. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de repartir avec des idées plus claires, en tout cas, puis de se faire un avis, son propre avis sur le sujet, en fonction de toutes ces informations-là.
Une belle occasion de s'informer sur les rouages de l'IA, et pas avec n'importe qui, puisque c'est Sébastien Beaujeau, formateur en intelligence artificielle, dont vous pouvez écouter les chroniques en podcast sur notre site internet, qui animera ces deux journées, donc ce mardi 23 septembre de 18h30 à 20h30 et le jeudi 2 octobre de 10h à midi à la passerelle de Moléon. C'est gratuit et ouvert à tous. On en arrive à l'actualité sportive en football, en National 3, défaite de la Châtaigneraie qui recevait le Poiré, 3-1. Le but pour la Châtaigneraie a été inscrit par Pierre Grelier. L'attaquant de Sévrien réalise un bon début de saison. Il s'est au micro de Dominique Cadu hier dans Sport Matin Dimanche.
Ouais, 5 buts en 5 matchs officiels, voilà, la saison démarre bien. Quand on est attaquant, c'est important de marquer. Voilà, donc après, voilà, j'ai un rôle un petit peu différent des autres saisons à Châtaigneraie où je joue plus en deuxième attaquant avec un pur numéro 9. Là, c'est moi qui joue plus en 9. Donc voilà, c'est aussi mon rôle de conclure le travail de l'équipe. Mais oui, ça démarre bien.
En Régional 1, Bressuire s'est imposé à domicile face à Parthenay-Viennet 1-0. Quatrième victoire consécutive du FCB en championnat en autant de rencontres. L'entraîneur Damien Charron estime que ses joueurs ont réalisé un bon match.
On était bien concernés par ce qu'on avait essayé de mettre en place. On sentait cet état d'esprit-là. Les joueurs avaient aussi envie d'inverser la désillusion du week-end dernier. Donc, ils avaient à cœur de bien faire. C'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, je les félicite. Je suis fier d'eux ce soir.
Damien Charron, l'entraîneur du FCB au micro-colline de Jean-Michel Bernier dans ce même championnat. Noyau B est allé s'imposer à Fethia 1-0. Victoire de Thouars face à Limoges 1-0. En Régional 2, Cerisay s'est imposé à la maison face à Dompierre-sur-Mer 4-3. Une victoire difficile face à une équipe pourtant réduite à 10 dès la 20e minute. Le coach du COC, Cédric Fuseau, était plutôt remonté contre ses joueurs.
On a axé nos discours depuis nous deux semaines parce que les résultats sont bons sur la partie football et on a volontairement arrêté les discours un peu accrocheurs où on doit aller chercher le groupe sur l'état d'esprit, sur la motivation, tout ça. Et on voit dès qu'on relâche un petit peu le cadre, il manque de remise en question en fait. Donc ils pensent que tout est acquis, sauf que les matchs comme ça, sera comme ça tous les week-ends et on ne nous donnera rien. Donc on n'a pas le droit de penser que parce qu'ils sont un de moins, ça va passer sans faire d'efforts.
Toujours en R2, Chauray est allé s'imposer à La Rochelle 4-0. Victoire d'Avenir 119 face à Ozon 1-0. Beaumont et Thouars ont fait match nul 0-0. Match nul entre Merniac, Arlac et Niort-Saint-Liguer, un but partout. 0-0 entre Niort-Saint-Florent et Saint-Émilion. Beaucoup d'activités de la part des joueurs entraînés par David Moreau. Des joueurs qui, au passage, retrouvaient le stade René Gaillard samedi soir. Mais Niort-Saint-Flo doit se contenter du match nul.
On a encore quelques situations dangereuses, des occasions qu'on doit mieux conclure encore une fois. Le dernier geste, le dernier centre, la dernière passe. On a eu encore plein de passes qu'on a tentées là, passes décisives qu'on n'a pas réussi à faire pour mettre nos attaquants dans les meilleures dispositions. Et puis quand ils ont été dans les bonnes dispositions, on n'arrive pas à conclure. Quoi. On a bien défendu, je trouve. On est solide, ça c'est la satisfaction du soir, mais déjà depuis quelques matchs. Bon, je pense que c'est une masse offensive, faut qu'on trouve des solutions pour qu'on soit plus performant, plus efficace tout simplement.
Alors, réaction recueillie par Simon Zulmain en Régional 2 féminine, la défaite des Bressuraises à Genet-Marigny 3-1. En R3, le Talus impose à Nueil-sur-Mer 1-0. Victoire du SC Toircé face à FC Otis 2-0. La réserve de Bressuire s'impose à Interbocage 1-0. La domination des Bressuirais en première période leur a suffi car ils se sont retrouvés à 10 à la 71e minute et même à 9 lors des arrêts de jeu. L'entraîneur d'Inter Bocage est tout de même, lui, satisfait de la prestation de ses joueurs malgré cette défaite. Florimond Blé.
On a été embêté par le jeu long de Bressuire sur la première mi-temps. On a corrigé ça à la mi-temps avec les gars dans le vestiaire. On a été nettement mieux sur cet aspect-là sur la deuxième mi-temps. Puis après, bon, l'effet de jeu ont fait qu'on aurait pu aussi revenir avec la supériorité numérique. Mais bon, ça n'a pas voulu rentrer. Donc voilà, on prend pas de points aujourd'hui, mais on ressort satisfait quand même de la prestation qu'on a fait.
Florimond Blé, l'entraîneur d'Interbocage au micro-colline de Laurent Guichetot. En basket, pour leur dernière rencontre amicale il y a quelques jours de la reprise de la saison de Betclic Elite, Cholet Basket affronté samedi soir Limoges. Victoire difficile des protégés de Fabrice Lefrançois, 88 à 83. Cholet qui retrouvera donc la compétition dès ce samedi avec la réception de Strasbourg. Ça sera bien sûr à suivre en direct sur Colline. Match à 18h10 en National 2 masculine, à défaite de Lesnior à Adourdax, 80 à 75. Chez les filles en pré-national, Bordeaux s'impose à Bressuire, 43 à 38. Et puis défaite de Choret à Limoges, 76 à 33. Un petit mot de handball en National 2 masculine. Pouzauges s'impose face à l'AS Union Handball, 40 à 29. Chez les féminines en National 3, victoire d'Angoulême face à Lezay, 30 à 27. Défaite de Prec face à Limoges, 26 à 33. Un petit mot de rugby pour vous indiquer qu'en Fédéral 3, Parthenay s'est incliné à Royan, 32 à 27. En Régional 1, défaite de Choré face à Lège Cap-Ferré, 25 à 19. Et puis en Régional 2 Nouvelle-Aquitaine, la facile victoire du COB face à Oléron sur le score de 57 à 5.